des fois des processus de recrutement. Moi, j'ai connu des gens que ça a pris un mois à temps plein pour se trouver un emploi, là.
La façon qu'ils vont te vendre, tu n'as pas vraiment de contrôle là-dessus. Donc, à toi d'être très clair. Ne soyez pas ambigu avec l'agence avec laquelle vous faites affaire. Soyez très, très clair.
Il nomme déjà certaines expériences que tu as faites, donc avec des points à valeur ajoutée, de « Ah, j'ai vu en tant que gestionnaire que tu avais fait tel projet. » De thumbs up, il a fait ses devoirs.
Comme vous le savez, Maurice n'est plus avec nous depuis mars dernier et en conséquence, on est en train de faire une petite période transitoire vers un nouveau format. Donc, on a une série spéciale Pirate RH dans laquelle on décortique les aspects les plus frustrants du monde des RH. Aviez-vous déjà été approché par une agence de placement? À moins que vous n'ayez aucune présence sur les médias sociaux, les chances sont que ça vous soit déjà arrivé. Nos fans ont exigé qu'on parle des agences, alors voici le second épisode sur le sujet. Et aujourd'hui, on aborde les agences du point de vue des candidats. François, oui, hein, François Valois-Paillard, comment vas-tu?
À nouveau, très bien. Donc, très
Oui.
content de pouvoir parler avec les pirates.
Oui, écoute, la semaine dernière, on a parlé en long et en large de un petit peu de on a développé sur l'existence des agences, parce que c'est pas là pour rien. Il y a des raisons, puis on l'a vu la semaine dernière. Spécifiquement du point de vue des entreprises, hein? Pourquoi les agences sont nécessaires pour certaines entreprises, c'est quoi la dynamique et tout ça, les pour, les contre, hein? Inconvénients, avantages. Donc, voyons voir aujourd'hui l'autre côté, comme je disais, de la pièce de 8, hein? La pièce de monnaie à l'époque des pirates. Donc, les agences de placement, mais du point de vue des candidats. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça avec toi? Ben, tu es un expert en RH, toi.
Donc moi, dans mon titre, je suis responsable de l'expérience employée. Donc, dans le côté expérience client, donc je le vois aussi. Je fais du recrutement, donc je vois aussi là, certaines personnes qui vivent des situations avec des agences. Donc, ça me fait plaisir d'en parler aujourd'hui.
Alright. Écoute, un petit disclaimer avant de partir, mon François. Comme je l'ai dit dans le dernier épisode, on n'entend pas souvent parler des bonnes expériences dans le recrutement. Dans le recrutement at large. Même chose pour les agences, hein? Parce que quand ça se passe bien, mais les gens sont contents, puis ben, ils passent à la prochaine étape qui est de ben,
Être en
l'intégration
emploi.
dans leur nouvel emploi, etc. Par exemple, quand on a une mauvaise expérience, là, on a tendance à l'exposer un petit peu plus aux autres, hein, spécialement quand ça n'a carrément pas d'allure. Donc, les gens vont nécessairement venir parler à Go Pirate de leur mauvaise expérience parce qu'on réagit à ça beaucoup, mais pas nécessairement parler des bonnes expériences, malgré le fait que je sais qu'il y en a. Donc, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Donc, c'est important de le mentionner.
Oui.
Bon. François, on est pas mal excités de partir, là, mais calme-toi, là. Avant qu'on parte, il faut se rappeler que si je suis capable de faire cet épisode-là, c'est 100% grâce à l'implication des membres Patreon. Patreon, là, je sais pas si vous savez c'est quoi, hein? Patreon.com, on s'abonne. Puis Patreon, en fait, ça vient de Patreon, hein? Les Patreons, là, dans un pub, c'est tes clients. OK? Et moi, là, les membres Patreon, je les considère comme mes patrons. Hein? C'est un petit peu à eux que je réponds. Hein? Je réagis à leurs besoins. Puis c'est eux qui nous ont demandé de faire cet épisode-là. Mais savez-vous qu'est-ce que j'ai fait à un moment donné pour ces beaux gens-là? Pas juste pour eux, là, pour vous autres aussi. On a écrit un livre, Maurice et moi, qui est sorti, ben, il est sorti il y a quelques mois, qui s'appelle Le Manuel Pirate. Comment réveiller le pirate en vous et reprendre le contrôle de votre carrière? 100% des sujets qui sont là-dedans sont là grâce à notre communauté Patreon parce qu'ils ont contribué hein, à nous indiquer qu'est-ce qu'ils voulaient lire dans ce livre-là. Et petit spoiler, je commence à penser à une suite. Donc, si vous voulez avoir une influence sur l'avenir de GoPirate hein, par rapport aux sujets qu'on aborde, aux projets qu'on prend, ben, allez faire un tour sur patreon.com/GoPirateCanada. J'utilise beaucoup, beaucoup de quoi est-ce que ma communauté a besoin pour planifier les projets qui s'en viennent. Donc, allez jeter un petit coup d'œil, puis si vous avez des questions, venez parler à Bibi. All right! Donc, dans le dernier épisode, on a vu avantages, inconvénients pour les entreprises de faire affaire avec des agences. Maintenant, avantages, inconvénients pour les candidats et quelques bonnes pratiques et histoires véritables qu'on a rencontrées. Donc, tu connais mon humilité légendaire, hein? Je te laisse parler.
C'est beau, je peux commencer.
C'est toi l'expert.
Oui. Donc, ben, en fait, au niveau des agences, au niveau des candidats, c'est sûr, certain qu'il y a du positif, des fois, il y a du négatif. Cependant, au niveau des avantages d'utiliser des agences de placement pour aider dans la recherche d'emploi, il y en a une qui est assez importante, c'est le fait d'atteindre ce qu'on appelle le marché caché de l'emploi. Donc, les agences font affaire avec des entreprises qui n'ont pas nécessairement les ressources pour, en grande fanfare, afficher leur poste là, sur tous les réseaux sociaux. Donc, il y a des emplois qui ne sont pas accessibles au public, on va le dire comme ça. Donc, c'est des emplois souvent dans des grosses entreprises qui, disons, ont le moyen de payer des agences. Donc, eux, ils font affaire exclusivement que de ce côté-là. Il y a aussi des petites entreprises qui n'ont, comme je disais dans l'hypothèse, qui n'ont pas de RH, donc qui ne peuvent pas nécessairement là, se prévaloir de tous les services de recrutement possibles d'une personne comme ça. Donc, ces entreprises-là, souvent, vont faire affaire avec des agences et c'est un des seuls moyens, une des seules portes d'accès qu'on peut avoir pour ces emplois-là qui, souvent, sont quand même des emplois de bonne qualité, donc avec des bonnes conditions, des bons avantages. Donc à ce moment-là, c'est vraiment là, c'est une des, comme je disais, une des portes d'entrée de prédilection pour trouver des emplois que normalement vous n'auriez pas la possibilité de trouver.
C'est tellement vrai que c'est un avantage, en fait, carrément compétitif de travailler, par exemple, avec une agence, que c'est la seule qui peut représenter telle petite PME super intéressante. J'en ai rencontré des comme ça. Tu te sens privilégié en tant que candidat. Puis, c'est un inconvénient quand c'est pas le cas aussi. Parce qu'en tant que consultant, OK, un matin, je me connecte sur LinkedIn. Et j'ai trois recruteurs qui me poke et qui m'envoient hey, écoute, on a une super offre ici. Puis les trois, là, je peux déjà te dire, ça vient de telle grosse organisation ou de telle grosse compagnie d'assurance ou de telle banque. T'sais, ils ont ouvert un poste de coach agile et là, tout le monde est à s'être trouvé, là, avoir l'exclusivité de tout le monde, de tous les coachs en place. OK? Ça, c'est l'envers de la médaille. Hein? Des fois, il y a des entreprises qui vont faire affaire avec toutes les agences. Premier qui m'envoie le mandat, c'est lui qui va avoir l'argent. Et puis là, ben écoute, c'est comme des, tu vois, les poissons qui se garochent là, hein, pour aller chercher leur petit ver de terre. Donc, ça, c'est un des inconvénients qui vient avec.
Puis, je vais te dire comme ça, je sais que c'est pas dans le bon podcast, j'aurais pu en parler la semaine dernière, mais il y a des entreprises que dans leur contrat, ils ont une exclusivité. Faites pas affaire avec d'autres agences, c'est moi qui trouve pour vous. Mais ça peut enlever là, ce que tu dis là, des agences qui arrivent en grand nombre là, pour te rencontrer là. Ouais, ben justement, les agences connaissent aussi la gimmick, donc ils peuvent mettre des protections de leur propre côté là.
Ouais. Ben ça, c'est nécessairement des agences, des agences, oui, qui ont un gros bout du bâton, qui ont de l'influence et qui le savent. Puis ils sont pas comme ça, il y en a. Mais oui, j'ai déjà vu ça, effectivement. Un autre désavantage, hein, pour un candidat, ben, c'est comme on en a parlé un petit peu là, la dernière fois, c'est que des fois, tu vas avoir ils vont t'offrir des services d'assistance et de soutien, là. C'est-à-dire que tu as un soutien qui est personnalisé pour les candidats tout au long du processus. Ça peut inclure la révision du CV. En fait, très souvent, hein, ils vont te demander ton CV puis ils vont le reformater à leur image, hein, parce qu'ils te représentent et tu leur donnes le droit de te représenter. Donc, souvent, tu vas avoir le logo de l'agence, hein, puis ils vont avoir retravaillé ton CV pour que ça fitte avec les attentes de leurs clients. Ils vont te préparer des fois à l'entretien d'embauche. J'ai eu ça aussi même si c'était pas absolument nécessaire, je me suis prêté au jeu. Puis ils ont été généralement, ils m'ont donné du très bon feedback. Ils vont donner du conseil sur l'orientation, le marché du travail, etc. Donc c'est une relation très donnant-donnant généralement quand ça se passe bien. Donc ce genre d'aide-là peut être vraiment précieuse pour les candidats, spécialement ceux qui sont pas très habitués, hein, quand t'as fait 15 ans que t'es en emploi. Puis que tu n'as pas vraiment mis ton LinkedIn à jour, des fois on repart de loin et cette aide-là est vraiment, vraiment la bienvenue à ce moment-là.
Et aussi pour les candidats qui sont introvertis, qui détestent le fait de devoir se remettre en selle pour trouver des nouveaux emplois, là. Il y en a qui détestent ça pour mourir. Donc, pour
Absolument.
vrai, ça, c'est une aide supplémentaire qui peut être très utile, là, surtout pour ces personnes-là qui savent pas par où commencer, là, pour retourner,
Très
là.
bon point. Très bon point. C'est pas tout le monde qui est bon pour se vendre.
Sinon, une autre chose aussi, c'est le gain de temps. Donc, on l'a vu aussi la semaine dernière, il y a un gain de temps de chaque côté. Donc, au niveau des employés, des candidats, donc les agences de placement, ça peut faire gagner beaucoup de temps aussi parce que quand tu désires justement trouver un nouvel emploi, faut que tu feuillettes la totalité du marché parce que t'sais, nécessairement, tu veux ouvrir tes horizons. Tu veux pas seulement là, trouver un poste très précis comme toi tu veux. Des fois, tu veux évoluer dans ta carrière. Donc, faire un filtre complet de tout ce qui existe sur le marché, ben, des fois, ça peut prendre là, plusieurs heures, voire toutes tes soirées, là. Des fois, des processus de recrutement, moi, j'ai connu des gens que ça a pris un mois à temps plein pour trouver un emploi, là. Donc, souvent, l'entreprise va accélérer le processus énormément puisqu'ils ont déjà un pied dans la porte. Donc, à ce moment-là, ça permet de faire des transitions plus rapides en emploi et ça fait sauver énormément de temps, en fait, là, à ceux qui veulent justement là, changer.
Ouais, fort bien. Il y a un autre point que je trouve super intéressant, puis je vais ajouter plein de choses sur ce qu'on a déjà noté comme note, François. C'est la possibilité d'acquérir de l'expérience et je vais ajouter de la perspective, OK? Donc, un candidat qui veut avoir, tu sais, de l'expérience dans un domaine spécifique ou explorer différentes industries, bien, les agences de placement, ça peut être une option intéressante parce que ils peuvent faciliter l'accès à des postes qui sont des fois temporaires, contractuels, hein, comme un consultant, ou à courte durée. Puis ils vont pouvoir t'en offrir plusieurs quand ça se passe bien, généralement. Hein? Quand les clients ont des bons retours, ah oui, ça a été génial, on recommande tu sais, telle personne, là, ça s'est super bien. Malheureusement, on n'en a plus besoin, c'était pour un remplacement, mais on le reprendrait n'importe quand. Ben, ces agences-là peuvent te placer partout. Et il y a une autre forme d'agence qu'on n'a pas parlé aussi dans l'autre épisode, mais il y a des agences qui t'engagent pour eux. Donc, tu es salarié pour eux, mais ils te font travailler chez différents clients. 6 mois chez un client, 1 an chez l'autre client. Donc, sans changer d'employeur, là, tu gagnes de la perspective, plusieurs endroits où tu peux expérimenter tes connaissances, hein, à profit ton expertise. Mais le fait de le faire dans des entreprises différentes va te donner une expérience qui est beaucoup plus exponentielle, puis la perspective aussi, hein. J'ai vu ça à 10 places. Donc, je peux vous dire que je vois des patterns. Ça, c'est peut-être pas quelque chose qu'on peut faire quand ça fait 10 ans qu'on est à la même place. Donc
Puis
ça, je trouve ça très, très intéressant. Ouais.
point de vue de recruteur aussi, quand tu vois une personne qui a travaillé à 8 endroits différents, c'est un red flag. Quand tu vois qu'il a travaillé dans une agence de placement avec plein de mandats, ah, c'est beaucoup plus intéressant, là.
Et si tu cherches un consultant, s'il a travaillé à 8 places différentes, ça, c'est pas un red flag. Ça, c'est
Exact.
intéressant. Donc, tout dépendant quel genre d'employé tu cherches, tu pourrais effectivement voir que la dimension prend des angles différents, là, tu sais. Je pense que tu voulais faire une différence entre un candidat qui est récurrent puis one-time deal, puis je ne sais pas trop exactement qu'est-ce que tu voulais dire par là. Donc,
Oui,
je te
ben en
laisse
fait,
t'exprimer.
normalement, une agence de placement qui va rencontrer un candidat pour un placement unique, ben le traitement qu'il va réserver à cette personne-là, c'est pas dans un concept de continuité dans le temps. C'est une relation d'affaires de bonjour, je te rencontre, parfait, j'ai un poste, merci, bonne journée, au revoir. Ça se peut que je te parle plus jamais.
Ben spécialement si l'idée c'était que tu voulais un poste salarié, puis maintenant tu es à l'emploi 2, et puis voilà, le recruteur n'a plus rien à faire après, en théorie.
Exact. La relation se termine là. C'est fini. C'est pas plus mal qu'il faut. C'est ça qu'il faut. C'est ça qui est nécessaire pour la personne qui recherche. Mais à ce moment-là, dans un contexte où une personne est plus récurrente qu'un consultant, quelqu'un qui recherche des mandats temporaires, l'entreprise, l'agence sait déjà dans 9 mois après la maternité que toi, tu vas vouloir te retrouver un autre emploi. Ben, à ce moment-là, il y a une relation qui se crée, une relation qui perdure et qui amène souvent une dimension beaucoup plus humaine. Donc, à ce moment-là, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant là, pour un candidat d'avoir une belle relation d'affaires avec une agence, là.
Donc, si par exemple, on sait déjà que le mandat pour lequel on t'envoie est un mandat qui a une fin, ben, l'agence va continuer à travailler pour toi, avec toi, dans le fond, pour la suite, parce que, ben, spécialement si ça s'est bien passé, hein, ben, on veut pouvoir te représenter ailleurs.
Parce que pour eux, au final, je vais dire comme ça, c'est un placement facile. Si c'est une
Absolument.
personne avec beaucoup de qualités, qui a des bonnes connaissances, ben, pour eux, c'est très simple, puis c'est un bon représentant parce que ça a bien été, ben, parfait, je vais pouvoir créer de la valeur avec un candidat comme ça. Donc, pour eux, c'est avantageux, dans tous les sens, là, de créer une belle relation, là.
Ben, c'est pas juste avantageux, c'est essentiel parce que les gens qui font du bon travail et que tu places chez des clients deviennent des ambassadeurs pour toi à ce moment-là. S'ils ont une belle expérience, ils vont en parler, croyez-moi. Je veux dire, je vais faire un podcast, là. On va en parler tantôt. Mais je vais en parler des bonnes agences sur lesquelles je suis passé tantôt, là. Comprends? Donc, tu sais, c'est effectivement, tu développes des ambassadeurs à ce moment-là. Donc, c'est important de s'en occuper.
Absolument.
Voyons voir les inconvénients.
Parce qu'il y en a. Il y en a.
Oui, il y en a. Absolument qu'il y en a. Rien n'est parfait dans la vie. Donc, c'est quoi les inconvénients qu'on peut, ben, en fait, qu'on peut rencontrer quand on veut faire affaire avec une agence plutôt que d'appliquer directement chez des entreprises?
Laisse-moi deviner, Olivier, tu vas me laisser commencer.
Vas-y donc.
Les honoraires, des frais éventuels, ça, c'est quelque chose qui est peu connu, qui arrive plutôt rarement, mais ça peut arriver, surtout dans des postes qui sont, disons, excessivement complexes ou beaucoup plus rares. On parle des postes de hauts dirigeants ou des gens, bref, qui veulent s'assurer que leur recherche soit fructueuse. Donc, il y a certaines agences qui vont avoir là, certains frais qui peuvent facturer justement les candidats pour les aider dans leur démarche. Donc, à ce moment-là, on parle de postes là, de hauts dirigeants ou disons des gens qui normalement peuvent pas facilement se trouver réellement ce type d'emploi-là parce que c'est...
Ou des gens très expérimentés dans leur domaine, où tout ce qu'ils voient les intéresse plus. Ils veulent quelque chose, ils cherchent la perle rare. J'aime pas cette expression-là, mais tu comprends ce que je veux dire.
Oui. Puis à ce moment-là, ben c'est ça, c'est des petits frais qui vont être engagés par le candidat, surtout parce qu'il n'y a pas de certitude aussi
C'est ça.
à ce que l'agence puisse le placer, parce que c'est des profils particuliers.
Et
Donc.
l'agence, à ce moment-là, elle reçoit de l'argent et de leur client entreprise et aussi un plus petit montant de leur client candidat.
Donc,
Ouais,
ça
c'est pas
peut
la
être un
norme.
inconvénient. C'est pas la norme,
Pas la
exactement.
norme. Une autre chose, puis j'aimerais dire que c'est la première fois que je m'en plains. C'est pas le cas. Il peut y avoir une perte de contrôle sur le processus de recherche d'emploi. C'est-à-dire que tu utilises une agence de placement, nécessairement, tu dois pas mal te coller à leur processus de recrutement, hein, parce que tu contrôles pas comment ils fonctionnent avec leurs clients entreprises. Généralement, ça se passe assez bien, hein, c'est rare qu'on te force à faire des choses que tu veux pas, hein, mais tu perds nécessairement une partie du contrôle. T'sais, par exemple, ben, comme je disais tantôt, le CV qui va être envoyé, ben, c'est pas nécessairement la version finale que toi, tu vas avoir envoyée. Ça se peut qu'il y ait des choses qui aient changé. Tu vas déléguer la gestion des candidatures à l'agence nécessairement. Donc, les gens la façon qu'ils vont te vendre, tu n'as pas vraiment de contrôle là-dessus. Donc, à toi d'être très clair. Ne soyez pas ambigu avec l'agence avec laquelle vous faites affaire. Soyez très, très clair. L'ambiguïté va juste être une source de problème. Donc, je vous invite à mettre carte sur table. C'est quoi vos deal breakers? Qu'est-ce que vous acceptez? Qu'est-ce qui ne passera pas? Comme ça, ils peuvent faire un meilleur travail pour vous. Mais ça peut aussi, à certains moments, ben, créer une forme de dépendance vis-à-vis de l'agence, là. Si à un moment donné, l'agence se rend indispensable, vous devez tout le temps passer par elle pour faire quoi que ce soit, vous sentez la perte de contrôle. Encore là, je veux dire, ça fait un petit peu partie du deal, hein? Tu donnes le mandat à quelqu'un de trouver une job. C'est normal que tu perdes un peu le contrôle du processus, mais ne soyez pas silencieux par rapport à ça. Dites de ce quoi vous avez besoin. L'agence, généralement, va vous aider ou elle va essayer de s'adapter, là. À moins que vous ne soyez pas un très bon candidat ou un très bon client, que vous soyez bien chialeux. Là, c'est peut-être un peu plus difficile, mais je vous invite à créer une relation de transparence et de confiance avec une agence, puis ça devrait bien se passer en général.
Puis là, on le met comme un inconvénient, mais il y a certaines personnes qui préfèrent là, ne pas avoir aucun contrôle parce qu'au final, ils sont passifs dans leur recherche.
Délégation, 100%.
C'est délégué, c'est plus une perte de contrôle rendu là.
Absolument.
Là,
Ben, il y
ça
en a
dépend
qui aiment
du lien de
ça.
confiance,
C'est
là.
ça, exactement. Il y en a qui sentent qu'ils perdent le contrôle sur leur carrière. C'est pas une bonne chose. C'est peut-être pas le moment de faire affaire avec une agence dans ce cas-là.
Puis, il y a aussi des gens qui, ça c'est un autre, l'autre côté de la médaille, des gens qui sentent qu'ils n'ont pas de contrôle quand c'est eux-mêmes qui font les recherches parce qu'ils sentent que les entreprises vont les rouler, que quand les entreprises leur posent la fameuse question, tu sais, c'est quoi tes attentes salariales, de ne pas pouvoir se défendre adéquatement. Donc, l'agence est un bon moyen aussi de
C'est
se
vrai.
défendre de ce côté-là, là. Donc, c'est eux qui négocient carrément pour le candidat. Donc, il y a aussi cette vision-là, qui clairement n'est pas un inconvénient là, de ce côté-ci, mm-hmm. c'est plus un avantage. Là, donc, l'agence va au bat pour toi.
Oui,
puis, tu sais, quand aussi tu reçois une offre, tu rencontres une entreprise, elle te fait une offre sur le champ parce qu'ils t'ont aimé, ben, ça veut peut-être dire aussi que tu es un très bon candidat. Donc, plutôt que d'accepter celle-là, peut-être qu'il y a une autre offre plus loin qui, elle, va réellement être intéressante. Donc, la perte de contrôle, ça peut être vu de deux façons.
Oui, c'est vrai.
Très bon. Sinon, au niveau des inconvénients, en tant que candidat, ça vous est peut-être déjà arrivé si vous avez fait affaire avec des agences. L'agence dit, nous recrutons pour un client à Québec ou à Montréal. On ne peut pas vous donner de détails, mais c'est une entreprise dans ce style-là.
Oui. Bon, puis là, si tu dis, c'est-tu ceux avec qui j'ai eu de la misère, puis que j'ai eu une relation terrible, tu ne sauras peut-être pas avant d'avoir appliqué.
Exact. Puis, je suis sûr que tu l'as déjà vécu, Olivier, mais tu vas dire, c'est une entreprise de pâtes et papiers, on va dire, peu importe. Là, puis là, tu sais déjà, ah, je le sais, c'est qui? C'est évident, c'est eux. Là. Donc, tu sais, le fait de ne pas avoir beaucoup d'informations sur l'entreprise que tu veux appliquer, ben, ça fait en sorte que tu ne connais pas beaucoup les valeurs de l'entreprise avant d'aller plus loin dans le processus. Mm-hmm. Tu sais pas à quoi t'attendre non plus aussi au niveau du poste, parce que chaque entreprise a des réalités très différentes. Ça amène des enjeux où, au final, un peu comme on disait tout à l'heure, une perte de contrôle, ben, c'est une perte de connaissance avant qu'on arrive à l'étape où tu les rencontres en personne. Puis ça, il y a une bonne raison pourquoi l'entreprise, l'agence va le faire aussi. C'est parce que s'ils mettent pas un petit peu d'inconnu, ben, il n'y a pas grand-chose qui empêche le candidat de juste appeler l'entreprise et dire « Hey, moi, j'étais à la recherche d'un emploi, j'ai parlé avec l'agence, il paraît que vous recrutez pour ça, tant qu'à payer 20% de mon salaire, embauchez-moi donc. »
C'est quand même rare. La plupart des agences, quand ils m'offrent quelque chose, ils me disent c'est quoi le nom du client, puis ils me demandent la permission de me représenter en exclusivité. Ça veut dire que je ne peux pas donner mon goût à quatre agences, puis les quatre aillent négocier pour moi. C'est une exclusivité. Donc, il y a une personne seulement qui peut envoyer mon CV pour cette opportunité-là. Mais ils vont le dire généralement. En fait, souvent, ils vont utiliser le... Comment t'appelles ça? Le clout, le fait, c'est un gros nom, une entreprise reconnue au Québec, un leader dans son domaine pour attirer des consultants ou des salariés. Fait que c'est rare qu'ils taisent le nom. En fait, généralement, ils vont l'utiliser pour le vendre, le poste. Là. Donc, soyez pas trop inquiets avec ça, mais ça va arriver effectivement que tu vas avoir moins de visibilité sur d'autres aspects, parce que tout ce qu'on sait, c'est que c'est un très gros nom. Je connais personne qui travaille là. Fait que, des fois, c'est lors de l'entrevue encore, directement avec le client, que tu vas pouvoir poser les questions. Donc, ça délaie un petit peu le rapport direct avec le client. C'est peut-être plus ça, en fond, parce que j'ai pas vu beaucoup d'agences qui m'ont carrément pas donné d'informations. Généralement,
c'est que l'information revient plus tard. Là,
C'est ça.
Normalement, au niveau de l'échange, tu parles avec l'agence. L'agence confirme que tu es un candidat intéressant. Ils parlent avec l'entreprise. L'entreprise leur dit « Oui, c'est intéressant, je veux le rencontrer. » Puis là, c'est à ce moment-là que l'agence va te donner le nom de l'entreprise. Donc là, il y a comme un échange et un intermédiaire. Là. Donc, c'est pour ça qu'il y a un peu moins de visibilité. Mais normalement, tu sais où est-ce que tu t'en vas quand tu vas faire ton entrevue. On s'entend.
Le dernier inconvénient, puis je vais mettre plein de bémols dessus, ça crée, tu sais, avoir... Par exemple, passer par une agence, c'est un petit peu un autre monde. C'est-à-dire qu'il y a bien des postes, par exemple, qui ne seront pas ouverts au grand public, mais qui vont être 100% juste accessibles via une agence. Okay? Donc, veux pas, au lieu de faire concurrence à tout le reste du marché, tu as de la concurrence avec tous ceux qui sont dans une agence. Okay? Fait qu'il y a plein de CV qui viennent de toutes les agences, spécialement quand le poste est ouvert à tout le monde, là, à tout le monde dans les agences. Fait que là, tu es en compétition, dans le fond, avec les meilleurs de ton domaine. Et ça peut être assez imposant de savoir ça. Il faut, et même dans une agence qui est exclusive à un client, ben qu'est-ce qu'il dit qu'ils n'ont pas 12 CV envoyés pour le poste? Fait qu'il faut que tu te démarques parmi les 12. Mieux vaut ça que parmi 160 si le poste est public, mais il faut quand même que tu te démarques. Donc, il y a une concurrence qui est un petit peu différente de ce qu'on est habitué. et dans laquelle il faut malheureusement tirer son épingle du jeu. Et c'est pour ça que Manuel Pirate, contrôler son narratif, ça a aidé.
Je l'ai déjà vécu, me combattre contre des propres gens d'une agence. Là, ils veulent ton bien, ils veulent te placer, mais ils veulent surtout placer quelqu'un. Je veux dire, faut pas être fou. Là.
Ben, c'est ça. Fait que des fois, il y en a un qui, lui est à vacances, il pourra pas commencer à la date que le client veut. L'autre, il est moins bon, mais il est pas en vacances. On va envoyer l'autre des fois. Parce qu'il va pouvoir commencer tout de suite, puis le client va être content.
Souvent, des questions de timing.
Oui, le timing, souvent, puis ça, c'est une affaire qu'il faut arrêter d'essayer de contrôler. Le timing, souvent, c'est tout. Timing is everything. Et malheureusement, des fois, on est à bonne place au bon moment, et des fois, non. Là, François, on a fait le tour avantages et inconvénients pour un candidat. Voyons voir les bonnes pratiques, parce que ça, les bonnes pratiques, ça veut dire que c'est fait par les bonnes agences. Donc, quelque chose à rechercher quand on songe à envoyer notre CV à une agence.
Donc, bien évidemment, je vais faire le même message puisque ça dépend aussi de votre besoin en tant que candidat. Mais ça, c'est des bonnes pratiques que j'ai repérées qui font partie des choses qu'en général, c'est un bon signe si ça apparaît dans votre processus. Ou au contraire, si ça apparaît pas, ça peut être un mauvais signe là que vous êtes peut-être tombé sur la mauvaise pioche, ou du moins que vous n'êtes pas nécessairement avec l'agence qui va vous représenter au mieux de leur capacité. Donc, bien évidemment, prendre beaucoup de bémols là-dessus.
Olivier va intervenir pour vous donner des trucs à mesure que tu sors les bonnes pratiques, by the way.
Super, excellent. Donc, premier point, l'agence va prendre le temps de te contacter de façon personnalisée et aura pris un minimum de temps là, pour analyser votre CV, ce que vous avez sur vos réseaux sociaux, parce que ça arrive des entreprises qui envoient 1000 messages à tout le monde en se disant il y en a bien un têteux qui va répondre puis qui va tomber dans ce que je recherche.
Là, je suis en train d'overheater. Là. Okay. Je vais mettre l'accent sur les mots importants de ta phrase. Vous contactez de façon personnalisée et aura pris le temps d'analyser votre profil au minimum. OK? Vous voulez un bon truc, les pirates, là? Faites comme moi, mettez un emoji dans votre prénom sur LinkedIn. Si quelqu'un vous contacte et que l'emoji est là, c'est un bot ou une automatisation qui vous a contacté.
Entre guillemets, bon nom film. Du candidat, là?
Oui, des fois, tu vas avoir entre crochets. Et prénom, j'espère que tu vas bien. C'est pas un bon début. Non. Donc, ce serait le minimum que ce soit quelqu'un qui vous contacte de façon volontaire et non un robot. Si vous aimez les robots, c'est correct, OK? Mais moi, j'essaie de parler avec des gens en premier parce que j'aimerais ça que ce soit des gens qui me choisissent. Voilà.
Oui. Et quand le texte d'intro est super général, c'est pas bon signe. Si dans l'approche, c'est le premier message envoyé par une personne d'agence, il nomme déjà certaines expériences que tu as fait, donc avec des points à valeur ajoutée, j'ai vu en tant que gestionnaire que tu avais fait tel projet. De thumbs up, il a fait ses devoirs.
Vis-tu que je te raconte la meilleure façon dont on m'a approché dans ma carrière et qui m'a donné d'ailleurs le meilleur job salarié que j'ai jamais eu, avec le meilleur patron, meilleur salaire et tout ça. C'est pas quelqu'un qui essaie de me vendre un poste. Et c'est pas quelqu'un qui a essayé de vanter tous mes grands mérites de « je vois que t'as fait ci, que t'as fait ça ». C'est « Écoute, Olivier, sérieux, je regarde le contenu que tu fais sur LinkedIn, puis je me demande, je serais vraiment curieuse de savoir c'est quoi ta prochaine étape dans ta carrière. Ça te tente-tu d'en jaser? » Donc, je savais qu'elle avait un poste à m'offrir qui était un poste de gestion, OK? Mais avant de parler du poste, elle était curieuse de m'entendre « Moi, je m'en vais où? » Ici, c'était un bon fit. Elle me mettait en relation avec le gestionnaire qui embauchait. Ça a été un bon fit. Et j'ai fait un an là-bas. Puis c'est un an dont je garde d'excellents souvenirs. Et la seule chose qui peut faire en sorte que je reste pas, c'est que je suis parti en business avec Maurice. Donc ça, là, ça a été génial pour moi parce qu'il était là pour m'écouter, comprendre c'était quoi mes aspirations. Pas juste se baser sur mes expériences en arrière. Qu'est-ce qu'il y a en avant de moi? Et puis quand elle a fait comme « je pense que tu pourrais le faire chez nous », j'ai dit, là, je veux continuer puis je veux parler à la personne qui embauche. Puis c'est arrivé. Ça, là, pour moi, c'était génial. Je ne sais pas si ce n'est pas le cas pour vous. Pour moi, c'était exactement ce que j'avais besoin.
Ça, c'est un cas rare parce que c'est quelque chose qui est à prendre en considération. Un recruteur d'agence a un temps limité et souvent est géré par des quotas, puis de la performance et tout. Donc, prendre le temps d'avoir une discussion avec un candidat, c'est quelque chose qui coûte cher, on va dire comme ça. Donc, c'est pas toutes les agences qui vont le faire, c'est pas toutes les agences qui peuvent se le permettre non plus.
Je me permets de mitiger. C'est pas une agence qui m'approchait comme ça, c'était directement l'entreprise. Comprends-tu? Mais c'est ça. L'agence doit faire le mi-chemin entre ce que je viens de vous raconter. Pour une agence, c'est probablement overkill puis beaucoup trop d'efforts. Mais tout automatisé est probablement, je veux dire, c'est comme on pêche à la dynamite, là. Hein? On pêche pas à la dynamite si on veut, si on cherche quelqu'un en particulier. Donc, de faire le balancier, tu sais, le juste part entre les deux où ce qu'on se sent pas déshumanisé, mais qu'on sent qu'on s'est approché comme une personne, un être humain, qui a une expertise intéressante, c'est ça le gros défi des agences. Puis, celle avec qui je fais affaire, ceux qui m'écrivent avec mon emoji en premier automatisé, j'ai bien de la misère à leur parler.
Puis ça fait partie justement du deuxième point qui est super important là, dans les bonnes pratiques d'entreprise, d'agence, je dis tout le temps entreprise, mais d'agence de recrutement. C'est l'agence qui va prendre le temps de discuter avec toi sérieusement, de regarder c'est quoi vos buts, c'est quoi vos intérêts, c'est quoi votre intention de carrière, parce que t'sais, pour eux, c'est important de voir est-ce que vous êtes réellement un bon chercheur d'emploi, est-ce que vous êtes une personne intéressée et intéressante? Si une agence vous contacte, pose 2-3 questions, hey, j'ai l'offre parfaite pour vous, est-ce qu'ils ont fait leur devoir? Ben, pas vraiment. Là. Eux, ils veulent combler un poste. C'est tout ce qu'ils veulent. Sinon, aussi l'agence qui va vous présenter beaucoup d'offres d'emploi différentes. Donc, plutôt que d'essayer de viser pour avoir les fits parfaits, ils vont tirer au shotgun. Donc, c'est ça, c'est aussi un red flag. Donc, normalement, ce qu'ils vont faire, c'est considérer votre expérience. Vous présentez peut-être une offre, deux offres, tout dépendant. Des fois, c'est deux offres qui peuvent être complètement différentes en fonction de ce que vous recherchez. Donc, à ce moment-là, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vraiment cibler votre besoin. Puis, ils vont essayer de combler un poste pour vous. Ils vont pas tenter de combler un poste avec vous. donc, ça, c'est aussi quelque chose qui est quand même important à valider aussi. Sinon, il y a certaines agences qui vont vous parachuter. Tiens, voici le poste. Bon, ils font le processus, t'es embauché, merci, bonne journée. Il y a cependant, les bonnes entreprises en recrutement, les agences vont faire des suivis rapides entre vous, l'entreprise sélectionnée, ils vont aussi préparer adéquatement votre entrevue. Ils vont vous s'assurer au final que vous êtes soutenu dans tout le processus. Puis ça, c'est une bonne pratique parce que ils ont intérêt à le faire pour que ça marche. Moi, un candidat pas préparé qui arrive dans mon entreprise à l'entrevue, qui dit « Ah, ben je le sais pas, j'ai une agence qui m'a dit de venir ici aujourd'hui à 10h. Ouais. Je l'ai vécu. » du placement personnel temporaire, mais je l'ai vécu, là. Parachuté, va là-bas à 10h, tu sais même pas où est-ce que tu t'en vas. Ah, ouch! Ça fait mal. Donc, tu sais, ça, c'est aussi une pratique qui est importante. L'accompagnement du candidat, là.
J'en ajoute un autre, hein, parce que il y a la dimension consultant aussi qui prend beaucoup de place, de plus en plus de place, hein. Il y a beaucoup de gens qui se lancent en consultation, donc moi, j'en suis depuis 3 ans. Donc, une des bonnes pratiques que je vois, puis elle n'est pas là partout, mais elle est là à plusieurs endroits, c'est tu ne fais pas juste placer le candidat, mais tu le considères comme un de tes représentants ou un ambassadeur, comme je disais tantôt, et puis tu vas faire un suivi constant avec lui. C'est-à-dire de s'assurer que en tout temps qu'il est optimal et qu'il se sent en sécurité, hein, chez son client, comment se passe la relation. Tu es curieux de savoir comment ça se passe. Tu peux même lui poser des questions sur comment augmenter l'expérience avec ce client-là. Okay, lui, il est en place, toi, tu ne l'es pas. Donc, les agences qui font ça, là, c'était très intéressant, non seulement pour que le candidat reste plus longtemps possible, mais pour qu'il ait envie de faire affaire encore avec l'agence quand le mandat sera fini. Donc, ça, c'est une bonne pratique que je vois pas partout, mais qui commence à émerger là, assez fréquemment.
Ça permet aussi aux agences de barrer les entreprises qui ne sont pas des bonnes entreprises, là.
Oui, ce
Et qui disent,
feedback-là est essentiel.
ils vendent que c'est une entreprise de la culture super intéressante, des avantages et tout, tu te rends compte une fois que ton représentant est placé que ouf,
Ouais.
ça marche pas, là. Ben là, à ce moment-là, ça permet aussi d'éviter à d'autres candidats futurs
Absolument.
de se faire placer là, là.
Absolument. Et là, on a fait le tour des avantages et inconvénients, puis on a quelques exemples, des bons et des mauvais. Moi,
On en a
j'aimerais.
vécu. On en a
On en a
vécu.
vécu, hein. Ben, comme tu sais, j'aurais pas le dire là. Ça fait 3 ans que je suis en agence. J'ai vu pas mal de places. J'ai acquis beaucoup de perspectives aussi. Puis depuis que je suis consultant, je fais affaire avec plusieurs agences, là, des noms que je nommerai pas, là. Mais il y a des endroits où je me suis senti comme une vache branchée à son crayon. Je le sentais, là, c'était clair. J'ai été mis là pour qu'il puisse faire de l'argent. Et de temps en temps, on m'appelle nécessairement un mois avant mon renouvellement pour voir si je veux renouveler. Hein? Et that's it. C'était le minimum nécessaire on va appeler ça de la survie. Hein? C'est des agences qui sont plus passives et qui s'intéressent à toi quand c'est le temps de renouveler. Puis c'est pas mal ça. Donc, c'est assez simple. J'ai pas renouvelé avec eux autres. C'est à partir du moment où j'ai pas renouvelé avec l'entreprise client. J'ai aussi pas renouvelé avec ces agences-là parce que je me donne, là, OK? Je m'attends à la même chose d'une agence avec qui je fais affaire. Puis j'ai pas des exigences qui sont très, très importantes, là. Mais le minimum, là, t'sais, je vais être traité comme un humain. Je veux pas avoir l'impression que je me ferais promener d'un enclos à l'autre comme du bétail. C'est pas mal le minimum pour moi. Puis je le dis maintenant.
Voyons, le
Toi,
respect.
t'avais des
Très
exemples aussi?
exigeant, mon cher Olivier.
Ouais. Ah, mais écoute.
Moi, j'ai déjà fait affaire avec des agences de placement pour moi-même parce que fut une époque, bon, j'étais en recherche là, justement pour me trouver des nouveaux défis. Puis, à un moment donné, j'ai vu une offre d'emploi qui avait été réalisée par une agence. Donc, bon, j'applique. Ils me contactent. Puis, l'encadrement que j'ai eu, en fait, c'est l'agence qui me pose 6 questions. L'entrevue dure 8 minutes.
Ah ben.
Puis après ça, ils me disent, c'est parfait, on a compris ce que tu recherches et ils envoient ma candidature à une entreprise. Bon, j'ai eu une entrevue, etc. Mais au final, aucun soutien avant, après. Ils m'ont juste dit, ben écoute, va là-bas, c'est telle entreprise, c'est ça le poste. Accompagnement très minimal. Puis au final, ils n'ont pas su c'était quoi mon réel besoin, c'était quoi mes aspirations. Ils me l'ont jamais demandé. Et
8 minutes
8 minutes.
de rencontre avec l'agence qui va te représenter, qui va aller dire à quel point tu es la personne qu'il faut. 8 minutes. 8 minutes, là, c'est moins que le temps que ça me prend pour expliquer pourquoi je fais ce que je fais.
Ah non, pour vrai, j'étais dépité. Mais bon,
Je comprends.
ça fait partie des mauvaises expériences
Ouais.
candidats que j'ai eues.
Moi, il y a, si on va arriver dans le positif, il y a une couple d'agences avec qui j'ai fait affaire ou j'ai pas avec qui j'ai pas fait affaire, mais qu'avec les discussions qu'on a eues, hein, parce que ça arrive que des fois tu parles avec une agence, mais il y a pas rien pour toi en ce moment-là, mais une question de timing, comme on disait. Des agences là, qui se comportent un petit peu comme des agents d'artistes. Bon, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas nécessairement essayer de te plugger chez tous leurs clients ou ce qu'il y aurait une opportunité possible. Ils vont essayer vraiment comprendre c'est quoi la valeur puis l'impact que tu apportes, puis c'est quoi tes aspirations. Et ils vont essayer de te trouver la meilleure entreprise pour toi parmi leurs clients actuels ou, si ça donne, parmi des nouveaux clients. Donc, on a vraiment l'impression que ils travaillent pour toi aussi, pas juste pour leurs clients. Puis t'as pas l'impression d'être un trou d'être un bouchon dans lequel ils veulent remplir un trou. Là, tu comprends-tu? T'es pas un bouche-trou. Il n'y a pas comme ah, une opportunité, il faut trouver le plus de monde possible. Non, non. Ils vont se contenter de te proposer des endroits où tu vas t'épanouir. Fait que tu as vraiment l'impression que c'est pas t'es pas le produit qui est vendu. Comprends-tu? Ils vont chercher l'entreprise qui va être la meilleure pour toi. Toi, tu es le client. Ça, pour moi, c'était les meilleures agences avec lesquelles j'ai travaillé. Ou j'ai envoyé des gens. J'ai envoyé des gens aussi vers des agences avec qui je n'avais pas travaillé, mais qui faisaient à peu près ça. Puis un autre bel exemple qui est très, très personnel, puis je pense pas que c'est représentatif, mais je trouvais ça super intéressant de le mentionner. c'est que, évidemment, quand, ben, lors du décès de Maurice, hein, il a fallu que je dise à mon client, ben, je ne serai pas là pour les prochains jours. Et dans les 5 minutes qui ont suivi, j'ai eu un message téléphonique du président de l'agence avec laquelle j'ai fait affaire. Pas le recruteur, là, le président. Bon, évidemment, c'est quelqu'un que je connais un petit peu, mais j'ai trouvé ça très, très, très révélateur à partir de ce moment-là. Combien de présidents d'agence prendraient la peine de faire ça? Bon. Là, on va mettre ça en contexte. Je suis Olivier Fortier, j'ai un podcast avec 175 épisodes, je suis un peu connu. Peut-être qu'il ne l'aurait pas fait pour d'autres, mais pour moi, ça a compté. OK? Donc, you know who you are si tu nous écoutes. Si vous voulez savoir c'est qui, vous venez me parler, je vais vous le dire en secret.
Puis, contrairement à ce qu'on peut voir, c'était un message positif, c'était pas un blast de merde.
Non, c'est
parce
ça.
Parce qu'on voit des fois certains présidents qui. Hey, pourquoi t'es? Ouais. Donc, c'était positif le message.
Oui, ben, c'était un message d'appui et de compréhension et de t'es pas tout seul et si tu veux parler. Tu sais, des choses que tu entends quand tu démarres un deuil. Mais je le sentais très, très sincère, en fait. Je sais que c'est un gars hyper occupé. Il a pris le temps de faire ça. Donc, pour moi, ça a été directement ici. Et maintenant, j'en vois plein de monde là-bas. Hein? C'est ça que ça fait être une bonne agence.
Mais oui.
Pour ça, je pense qu'on a fait, ben, on a fait pas mal le tour. Il y a probablement des sujets qu'on a oubliés parce que, ben, c'est quand même complexe comme marché. Il y a des spécificités aussi selon les marchés à Montréal, Québec, Europe. C'est pas tout le temps la même chose. Il y a le domaine de l'informatique aussi qui est une bibitte spéciale. Donc, évidemment, on a parlé de ce qu'on connaît.
Exact.
Mais j'espère que ça va vous aider, les pirates. Si vous n'êtes pas trop certain, hein, où est-ce que vous devriez envoyer vos CV, moi, j'ai une couple de places à vous recommander. Vous viendrez m'écrire. Ça va me faire plaisir. Évidemment, je ne connais pas tout le monde dans toutes les industries. Mais spécialement en informatique, j'ai une couple de places à vous envoyer. Fait que vous me ferez signe. On va vous aider. Mais François, ça a été très généreux de ta part de te joindre à nous une deuxième fois pour parler
Troisième
de ce
fois.
sujet. Oui, bien, deuxième fois pour le sujet des agences, troisième
Oui,
fois
bien sûr.
total. Continuez, vous avez vu, ça a été demandé par les fans, ça, ce sujet-là. Donc, continuez à nous proposer des sujets. On verra qu'est-ce qu'on peut faire, n'est-ce pas? Il y a toujours Julie qui n'est pas indisponible, c'est juste qu'elle a trouvé un travail. Donc, question d'horaire, on va essayer de s'arranger pour la revoir de temps en temps. Merci beaucoup, François, pour ta disponibilité. Puis on se dit à la prochaine, chers pirates.
Oui.
Allez faire like. Là. Enfin, allez faire like, c'est un job de pirate. Puis vous abonner.
Moi, je peux pas lever le chapeau.
Ah, t'es pris dans tes écouteurs.
Eh oui.
Bye bye, les pirates, à la prochaine.
À la poudre!
À l'abordage!
À la...